Il s'est passé quelque chose d'étonnant qui a indigné le Seigneur. C'est rare de voir Jésus indigné, je crois que c'est le seul texte. Marc chapitre 10, au verset 13. Il s'est passé quelque chose qui se passe, je crois, souvent dans nos vies. Très souvent. Cette histoire, vous savez que tout ce qui est écrit, il a été pour notre instruction, pour notre spiritualité. Regardez ce qui s'est passé. Alors, ces textes, écoutez, moi, vous savez, les prédications, c'est quelque chose d'important. Notez-les et méditez-les. Soyez soucieux de votre âme. Regardez ce qui s'est passé. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 10, quelque chose qui a presque mis en colère le Seigneur. Parce que le mot indigné, vous regarderez dans le dictionnaire et vous verrez. Marc chapitre 10, verset 13. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touche. C'était bien ou c'était pas bien? Oui, c'était bien. Mais les disciples reprirent ce qui les amenait. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Amen. Il les bénit. Mes frères et sœurs, nous sommes ses enfants et nous avons besoin de cette bénédiction. Tous, si vous l'avez déjà, vous pouvez en avoir encore plus. Mais si vous ne l'aviez pas, ou si vous ne l'avez plus, si vous n'avez pas suffisamment, Dieu veut vous la redonner. Alors, il les a touchés. Vous avez vu combien Jésus était mécontent de la réaction des apôtres, et je crois que nous aussi, sans que nous nous en rendions compte, même dans nos réunions, nous pouvons empêcher Dieu de nous toucher. Vous allez me dire, mais monsieur Gros, c'est pas possible, Dieu va nous toucher, on est là, oui, on est là physiquement, j'en conviens. Mais spirituellement, est-ce que je suis prêt à ce que Dieu puisse vraiment me bénir, me toucher? Je pense que le diable fait tout, il fait tout. Vous le croyez? Il fait tout et il est plus rusé que ce que l'on pense. Il fait tout, tout. Regardez là quand même, il a pris des pasteurs. C'était des apôtres, c'était les pasteurs, les disciples. Dedans, il y avait les pasteurs qui n'étaient pas contents parce que les enfants venaient perturber l'ordre. Mes frères et sœurs, plusieurs parmi nous n'ont pas été touchés depuis longtemps et vous en souffrez. Et c'est normal. Alors, quelle est la parole que j'ai besoin? Il le sait, le Seigneur, la parole dont tu as besoin. Et croyez-moi, il peut vous la donner. Et un mot suffit. Un mot suffit pour vous guérir. Est-ce que je vais lui permettre de me toucher? Ou est-ce que je vais être comme ces milliers de chrétiens dans des milliers d'églises, incapables de vivre quelque chose avec ce Dieu qui veut nous toucher? Alors ça peut nécessiter énormément de réactions de notre part. Parce que vous connaissez ce verset dans les actes, ne le cherchez pas, c'est acte 3. Quand Pierre parle au peuple, il dit que des temps de rafraîchissement vont venir de la part de Dieu. C'est vrai ça. Vous y croyez à ces temps de rafraîchissement? Il dit voilà, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Quelles sont les conditions? Soyez sympas, soyez gentils, allez à l'église, soyez fidèles à l'église, surtout à l'église. Non. Il leur dit, repentez-vous et convertissez-vous, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Et ne nous imaginons pas que ces temps de rafraîchissement vont venir comme ça, parce qu'on va chanter peut-être en allegro, Seigneur bénis-moi, rafraîchis-moi. Ça va pas, ça va. C'est un peu plus sérieux que ça. Il y a longtemps que les prédications ou que les cantiques auraient atteint ce but, si c'était le cas. C'est sérieux, mes frères et sœurs. Si le Seigneur me demande de me repentir, il ne faut pas juste que je sois sympa. Si le Seigneur me demande de me convertir ou de me reconvertir, est-ce que Dieu peut redemander à un chrétien de se reconvertir? Est-ce que c'est écrit dans la Bible que Dieu parle à des chrétiens et il leur dit « repentez-vous à des chrétiens » Et bien sûr, dans toutes les lettres de l'Apocalypse, toutes les lettres, pas toutes, 6 sur 7, Dieu dit « repentez-vous » par l'église de Philadelphie, de Philadelphie. Mais même si le Seigneur ne dit pas « repens-toi », il dit des choses qui font que les chrétiens ont intérêt à faire quand même attention à leur communion avec Dieu. Alors, je sais ce matin qu'il y a quelqu'un, plus d'un, c'est sûr, que Dieu veut vraiment toucher. Mais il ne peut pas. Il ne peut pas parce que vous êtes trop superficiel, vous êtes trop aléatoire avec les choses spirituelles. C'est sérieux. Et si Dieu dit « repentez-vous », si Dieu me dit à moi « repens-toi », eh bien je vais pas, je peux faire des progrès dans la prédication, est-ce que ça va y plaire à Dieu? Non, ça y plaira pas. Si Dieu me dit de me repentir, il va pas me dire « fais des progrès dans la prédication ». Il va pas vous dire « fais des progrès dans le chant, tu es musicien, fais des progrès dans la guitare ». Parce que non, si Dieu dit « repens-toi » pour que ces temps de rafraîchissement viennent, il faut que je me repente. Alors on va prendre plein d'exemples. Et je voudrais qu'on le fasse consciencieusement. Dans le livre des rois, dans le deuxième livre des rois, on voit un jeune homme. Il est jeune en plus. Il a été, excusez-moi l'expression, bombardé roi à l'âge de 8 ans. Vous savez comment ça marchait? Bon, bien sûr qu'il avait des conseillers, etc., qui le remplaçaient. Il avait 8 ans, le roi Josias, lorsqu'il est devenu roi. Est-ce que c'est bien d'être chrétien tout petit? Est-ce que c'est bien de devenir chrétien tout petit? Oui. Et à 18 ans, il s'est passé quelque chose. Il y a 18 ans. Pourquoi 18 ans? 10 ans après? Des fois, il faut du temps. Des fois, on le voit 20 ans après, 30 ans après. On voit des personnes qui réagissent. La 18e année de son règne, de Rois chapitre 22, verset 3, il a envoyé son secrétaire dans la maison de l'Éternel. Et il a voulu entendre la loi de Dieu. Il a voulu entendre la loi. Bon, c'est vrai que les rois devaient le faire. Mais est-ce que les chrétiens ne doivent pas tous le faire? Entendre ce que Dieu a à leur dire. Est-ce que, sérieusement, je le dis souvent, je le dis, c'est peut-être maladroit, mais franchement, qu'est-ce que vous voulez ce matin? Une bonne prédication? Est-ce que les nouveaux qui vont... Des fois, les nouveaux, quand ils viennent, ils ne savent pas. Alors, les nouveaux, les premières fois qu'ils viennent, « Oh, monsieur Go, vous avez fait un beau sermon. » Bon, c'est sympa, franchement, ça fait du bien. Mais ce n'est pas ça qu'on a besoin. Ce n'est pas d'un beau sermon. Ce que vous et moi, nous avons besoin, c'est de la vie. Est-ce que vous comprenez? C'est de la vie du Seigneur. Sa vie, V-I-E, sa vie qui coule en nous, qui nous rafraîchisse. Alors ce roi, à 18 ans, il y en a des jeunes qui ont 18 ans, à 18 ans, il a fait quelque chose de formidable, il a commencé à réagir. Il a réagi, bon je pense que 18 ans c'est bien. Alors regardez verset 8, alors Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Verset 11, « Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi. » Lorsqu'il entendit, il y a eu une réaction. Alors il entend, regardez la fin du verset 13, parce que bon, c'est grave, mais c'est ce qui se passe. C'est aussi grave, sinon pire. Quand il dit « Ma colère, la colère est grande de l'Éternel. Grande est la colère de l'Éternel. » Il est là, il est conscient. Est-ce que vous croyez que la colère de l'Éternel vient? Sérieusement, est-ce que vous croyez qu'elle vient? Eh bien, écoute, c'est écrit, de toute façon, que vous soyez d'accord ou pas. Si vous allez sur certains sites, il y a des sites chrétiens qui vous disent qu'on peut empêcher l'apostasie, qu'on peut empêcher la colère de l'Éternel. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La colère de Dieu, elle vient. J'aimerais vous dire le contraire. Et c'est ce qui s'est passé du temps du roi Josias. Quand il est soucieux, il veut connaître la parole de Dieu. Mais est-ce que vous voulez connaître la pensée de Dieu? Même les jeunes qui ont 18 ans, là, qui ne sont pas baptisés. Il y a plein de jeunes dans l'église. Bon, je sais que ce matin, il manque des familles. Mais jeunes ou pas d'ailleurs. Comment réagirez-vous à la parole que Dieu va vous donner? Là, j'ai pris le roi Josias parce que c'est prophétique. Parce que nous aussi, nous savons que la colère de Dieu va venir. Et Josias, bien sûr, il envoie le sacrificateur chez la prophétesse. Vous savez, si Dieu a utilisé une femme à l'époque, ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. Mais c'est qu'il ne devait pas y avoir beaucoup d'hommes. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pas que Dieu ait utilisé une prophétesse, mais non, au contraire. Mais mes frères et sœurs, nous sommes dans ces temps où, Alors c'est vrai qu'il y a une prophétie, j'en parlais dimanche, que les vierges sages, même les vierges sages, s'assoupissent. Ça veut dire que l'évangélisation, à la fin, sera presque inexistante. Mais il n'empêche que cet homme voulait savoir. Et il a même pas prié le prophète, il a demandé à son secrétaire. C'est pas grave que ce soit un qui prêche ou un autre. Ce qui est important, c'est d'entendre la parole de Dieu. Et vous lirez ce chapitre. Vous lirez ce chapitre. Regardez la fin du verset 7. On va le verset 17. « Parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert des parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains. Ma colère s'est enflammée contre ce lieu, elle ne s'éteindra point. » Je vous le dis, c'est pas joyeux, c'est clair. Mais c'est ce qui va se passer. La colère de Dieu, elle vient. Elle ne s'éteindra pas. Croyez-moi. Écoutez, alors là, si vous ne me croyez pas, vous remettez en question toute la parole de Dieu. C'est grave, si vous ne me croyez pas, moi, ça m'est égal, je n'ai pas besoin que vous me croyez. Mais si vous ne croyez pas ça, c'est que vraiment vous rêvez. Alors, regardez verset 19. « Parce que ton cœur a été touché. » Vous voyez, c'est une bénédiction quand Dieu peut nous toucher. « Parce que ton cœur a été touché. » Voilà ce que Dieu attend ce matin. Notre cœur le sera-t-il ? Parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi voici, je te recueillerai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu. Ils apportèrent au roi cette réponse, la suite nous montre combien il a bien sûr encore bien réagir. Mes frères et sœurs, si vous restez fidèles, si vous restez attachés à Dieu, si vous dites, mais je veux que moi aussi mon cœur soit touché, je veux que mon cœur soit touché, et je ferai ce que Dieu me demande. S'il me demande de me repentir, eh bien je vais me repentir, comme au début. S'il me demande de me reconvertir, eh bien je vais me reconvertir. Ne jouons pas avec Dieu. Ne pensons pas qu'un jour on va se pointer devant Dieu, comme je l'ai dit dernièrement, et qu'on va lui dire, Seigneur, je t'avais demandé de temps de rafraîchissement, mais qu'est-ce que c'est ce travail? Tu ne l'as pas fait. Non mais, la personne qui pense un instant qu'elle va pouvoir dire à Dieu, mais pourquoi tu ne m'as pas rafraîchi? C'est pas normal. La personne qui ne sera pas rafraîchie par Dieu, eh bien c'est qu'elle n'aura pas fait ce que Dieu lui demandait pour l'être. C'est pas compliqué. Vous êtes d'accord avec moi? Vous croyez que quelqu'un va pouvoir dire à Dieu, ah mais je n'ai pas été rafraîchi, de toute façon j'avais un pasteur, il répétait toujours pareil, il n'était pas spirituel. Ah mais est-ce que vous croyez que ça va dépendre du pasteur? Sérieusement, est-ce que vous pensez que le temps de rafraîchissement dépend du pasteur? Allez, répondez-moi. Sérieusement. Je pense que le pasteur peut vous encourager, vous aiguiller comme un train qui est bien mis sur les rails, d'accord. Mais mes frères et sœurs, quiconque demande, reçoit. Et Josias, au bout de 10 ans de son règne, il était jeune, 18 ans, et je pensais, en préparant cette prédication, à tous nos jeunes, à tous nos enfants qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, vous êtes là, vous attendez, vous allez avoir des grosses surprises, parce que laissez-moi vous dire que nous serons épargnés de la colère que si nous marchons avec le Seigneur. Et la seule solution, c'est de dire, mais je veux entendre. Le roi, je ne sais pas s'il était intéressé par l'armée, par les routes, j'en sais rien. En tous les cas, à un moment donné, il a été intéressé par la pensée de Dieu. Mes frères et sœurs, la colère de Dieu, vous le savez, elle vient. Et seront épargnés tous ceux qui, comme Josias, parce qu'il n'y a pas de différence, vont prendre à cœur ces choses. Seigneur, je veux des temps de rafraîchissement. Vous croyez que Dieu peut donner des temps de rafraîchissement? Est-ce que vous croyez? Oui. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, comme on le voit dans les prophéties, on apprend, mais on n'arrive pas à cette connaissance de la vérité. C'est ce que Paul dit, je cite très souvent ce texte dans 2 Timothée. Mais je m'arrête au verset 5. Je l'ai cité peut-être 50 fois en 17 ans. Mais je m'arrête toujours au verset 5. Et hier, j'ai eu à cœur de vous lire le verset 7. Parce que c'est exactement ce qui se passe. On connaît les signes, on connaît. Vous pouvez les citer par cœur presque, non? Est-ce que vous pourriez les citer par cœur dans les derniers jours? Vous les connaissez? Les gens seront comment? Fanfarons. Comment ils seront encore? Égoïstes, ennemis, amis de l'argent. Voyez, bon, vous les connaissez. Donc voilà, c'est vrai. Nous sommes, mais ça, dans l'Église, ça fait énormément de mal. Les gens aiment le plaisir plus que Dieu, etc., etc. Insensible, vous voyez, cette insensibilité, elle nous perd. Elle nous éloigne du Seigneur, etc., etc. Emporté, enflé d'orgueil, ayant l'apparence de la piété. Donc c'est la preuve que c'est adressé à des chrétiens. Mais au verset 7, il y a une explication supplémentaire. Apprenant toujours, c'est beau d'apprendre, d'être enseigné, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est terrible ça. J'apprends des choses merveilleuses, je lis des choses extraordinaires. Je ne peux pas douter un instant que ces temps de rafraîchissement n'existent pas. Je sais par expérience personnelle que quand on n'a pas vécu quelque chose depuis longtemps, on peut avoir même le sentiment qu'on ne l'a pas vécu. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, quand j'ai perdu la joie du salut il y a une vingtaine d'années, j'ai eu, au bout de quelques mois, j'ai eu l'impression que je n'avais eu jamais eu la joie du salut. Est-ce que, non mais ça fait peur, hein. Vous me suivez? Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Tellement c'est grave. Pour moi, je n'avais jamais eu la joie du salut. Pourtant, j'étais chrétien depuis 15 ans ou plus. Oui, à peu près. Et là, je me suis dit, c'est grave. Si tu en arrives à croire que ce que tu as vécu, tu ne l'as pas vécu. Comme ces couples qui, au bout de 20 ans de divorce, 30 ans de divorce, et qui disent, mais j'ai jamais aimé ma femme. Ils en sont sûrs, c'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mais c'est pour vous dire combien le diable, il est rusé. Vous savez, un des textes qui m'est venu à l'esprit quand j'ai préparé cette exhortation, c'est quand Samson, il a joué avec ça. Vous savez, on ne joue pas avec le péché. Quand il a joué avec Dalila, vous connaissez l'histoire. Vous savez, Dalila dit, oh, dis-moi d'où vient ta grande force. Je ne te le dirai pas. Non, mais j'ai fait ça exprès. On ne joue pas avec le péché. Avec le péché, on ne rit pas. Les gens jouent avec le péché. Dis-moi où vient ta grande force. Ah, ben tu sais, si on me lie avec des cordes toutes neuves qui sont pas encore sèches, eh ben voilà, ma force partirait, je serais comme un enfant. Et voilà, on l'a attaché avec cette corde. Samson, les Philistins sont sur toi. Et paf, cette corde. Vous prenez compte des grosses cordes. Oh, tu t'es joué de moi, c'est pas bien. C'est pas gentil. Et il recommence. Et il recommence. Moi, quand je lis cette histoire, ça me fait pas rire, moi, ça. Et quand je vois des chrétiens qui flirtent avec le péché, c'est pas grave. C'est pas grave si j'ai menti. C'est pas grave. Oh, c'est pas grave. On va pas faire un flan. Hein. Écoutez, c'est pas grave si assis. Ah ouais? Vous lirez dans le livre des Juges au chapitre 16, si je ne me trompe pas. Bien, on va y aller. Regardez ce qui s'est passé. Parce que le péché, croyez-moi, il sait ce qu'il fait, le péché. Le diable, il sait ce qu'il fait. Regardez avec moi, on va lire comment ça s'est passé. Mais vous lirez, il vous faut les lire, il nous faut les lire. Je vous dis, il vous faut parce que je les lis, vous comprenez bien. Juge, vous savez où c'est Juge? Josué, Juge. Le 5, 6, 7e livre. Juge, chapitre 16. Alors il y a toute cette approche, on s'amuse, on en joue, on en rit. Et au verset 15. Vous savez, c'est pour ça que le Seigneur ne peut pas nous toucher. Parce qu'on n'est pas sérieux. Josias, il a été sérieux et il a été épargné de la colère. Juges chapitre 16, verset 15. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà trois fois que tu t'es joué de moi et que tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Verset 16. Comme elle était chaque jour. Le péché, je vous assure que lui, il est persévère. Hein, à le tourmenter. Et à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Vous vous rendez compte? Il lui ouvrit tout son cœur. Il aurait mieux fait de l'ouvrir à quelqu'un d'autre, son cœur. Il l'a ouvert à une femme, une païenne. Et ça, une petite parenthèse, quand je vois des chrétiens, l'autre jour, il y a une jeune fille qui est venue me trouver pour un conseil. Elle savait ce que j'allais lui dire. Et elle me dit, mais hier, j'ai été voir deux personnes. Et bien sûr, deux personnes qui ne pouvaient que donner un conseil opposé au mien. C'est pour vous montrer que moi je ne sais pas. Sérieusement, quand ça ne va pas bien spirituellement, vous allez voir quelqu'un qui ne va pas bien spirituellement. Et là, nous avons l'exemple de ce qui se passe lorsqu'on joue avec le péché. Oh, c'est pas grave, il faut pas voir le mal partout. Mais en plus, c'est vrai, ça c'est vrai, il faut pas voir le mal partout. Mais le mal, il existe. Et croyez-moi, il y a des situations où le diable, il est patient. Croyez-moi, il est patient. Et là, il lui ouvrit tout son cœur, il lui dit, voilà, alors, voilà, il lui a dit. Et au verset, la fin de l'histoire, vous voyez, là, on ne rit plus, là. Hein. Samson, verset 20, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil, il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. N'oubliez pas que cet homme avait reçu la force, une partie de la force de Dieu. C'était quelqu'un, Samson. Ça veut dire petit soleil, Samson. Il aurait dû être ce soleil de justice. Je m'en tirerai, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. La suite, ça fait peur. On le voit, les yeux crevés, en train de tourner la meule. Vous savez ces meules où on écrase du blé, il n'y en a plus aujourd'hui. Mais ça vaut le coup de regarder sur des vieux bouquins ce que sont ces meules. Où c'était un travail qui était réservé aux esclaves ou aux bêtes. Et voilà, Samson en train de tourner la meule pour écraser le grain, pour faire de la farine. Lui, l'homme de Dieu, en train certainement de pleurer. On ne joue pas avec le péché. Lui te passe, oh ça je peux le faire, ça c'est pas grave. Oh c'est bon, on va pas. Je le dis, j'entends, oh on va pas vers un flanc, monsieur Gaulle, ne vous inquiétez pas, je contrôle. Hein, vous allez voir si vous avez contrôlé longtemps le péché. C'est lui qui va vous contrôler. Et cet homme qui, pourtant cet homme avait reçu de Dieu, il avait vraiment reçu de Dieu. Mais il flirtait avec les femmes, il aimait les femmes, c'était son problème. Il y a des gens, c'est l'argent, d'autres, c'est la sexualité, d'autres, c'est l'orgueil. Il y a des choses, on le sait, sérieusement. Est-ce qu'on ne sait pas quel est notre point faible? Est-ce qu'on le sait ou on ne le sait pas? Est-ce que vous le savez? Moi, je pourrais vous le dire, le mien, je ne vous le dirai pas. Mais je le connais. Et je peux vous dire que je me tiens à carreau. On le sait tous. On le sait. C'est pour ça que je vous disais, quand on passera devant Dieu, personne n'aura le toupet de dire, mais moi j'avais besoin de cet ange, je suis resté là en plan. Non, ces temps, ils existent. Et Josias les a vécus et il est mort avant que la colère ne vienne. Eh bien, ce sera pareil pour nous. Si nous sommes sérieux, si notre cœur est touché, eh bien, nous ne connaîtrons pas la colère de Dieu. Et pourtant, combien vont connaître la colère de Dieu dans la prophétie des 10 vierges, j'en ai souvent parlé. Il y en a quand même la moitié qui vont connaître la colère de Dieu. Et toutes ces vierges représentent l'Église qui attend le Seigneur. Parce que les gens ne sont pas touchés, parce que les gens ne veulent pas payer le prix. Samson, il n'a pas fait gaffe à son ministère, il n'a pas réalisé ce que Dieu lui demandait. Est-ce que nous réalisons que Dieu a besoin de nous pour être des sources de bénédiction? Est-ce que je sais où j'en suis? Ce matin, 5 avril 2015, est-ce que je sais où j'en suis? Rappelez quand Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden et qu'il a dit à Adam, rappelez la question qu'il lui a posée. Où es-tu? Dieu savait très bien où était Adam. Mais Dieu a voulu, par une parole, justement, retrouver le contact avec lui. Et il lui a posé une question. Ce n'était pas pour l'embêter, c'était pour l'aider. Et si ce matin, je nous pose une question à chacun, où en es-tu? Où es-tu? Vous avez 9 rue Saint-Guilain. Pas physiquement, spirituellement, où es-tu? Est-ce que vous êtes capable de répondre? Moi, je pense que Samson ne savait plus trop où il en était. Et il a cru que parce qu'il avait la force de Dieu, bien sûr, nous aussi. Mais j'ai entendu déjà, oh, monsieur Gaud, vous savez, l'Ancien Testament, c'était vrai, c'était un peu plus, c'était sous la loi. Dans le Nouveau Testament, pas de problème. Jésus a dit qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Ah ouais? Parce que vous croyez que c'est avec ça que Dieu va faire son œuvre? Vous croyez que c'est avec ça qu'on va être prêt? Alors moi, je suis pas habilité à savoir si quelqu'un est prêt ou pas prêt. C'est quelque chose que l'homme n'est pas capable de savoir. Quoique, quand quelqu'un vit volontairement dans le péché, on sait très bien qu'il n'est pas prêt non plus. Bon. Mais quand est-ce qu'un chrétien perd son salut, c'est un peu compliqué cette affaire. Mais mes frères et sœurs, une chose est certaine, c'est que ces temps de rafraîchissement, ils existent. Et si vous en avez besoin, eh bien Dieu veut vous les donner. Et si ça passe par la repentance, eh bien, repentez-vous. Si moi, j'ai besoin de ces temps, eh bien, je dois me repentir, eh bien, je vais me repentir. S'il faut que je me reconvertisse, eh bien, je vais me reconvertir. Et je vais reprendre la parole de Dieu avec sérieux. Est-ce que Dieu va vous aider dans ce travail? Mais bien sûr, parce que c'est bien de chanter des cantiques, c'est bien de chanter ce qu'on a chanté tout à l'heure. C'est bien. Et je pense que ça exprime ce que l'on a vécu, ce que l'on est en train de vivre, ce qu'on voudrait vivre. Voilà, c'est auprès de Dieu que je voudrais me tenir. Il était beau ce cantique? Oui, Jeanson, il était beau. Voilà, je voudrais grandir, ta présence, la sentir, tout ça, ou la ressentir. Voilà, Seigneur, voilà, ta présence. D'accord. Mais là, ce matin, 5 avril 2015, où je suis? J'espère que moins je suis devant le Seigneur, en train de lui dire, Seigneur, parle-moi. Vous savez, ce matin dans la voiture avec ma femme, on parlait des églises où certains aspects sont développés dans la prédication, comme par exemple l'importance de la fidélité aux réunions. Où on peut insister, dire aux gens, il faut être fidèle aux réunions. Bon, je ne suis pas sûr que la solution n'est pas là. Parce que Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Oui ou non? Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Jamais. Même quand le jeune homme riche, ce chef religieux, s'est jeté à ses pieds, plein de joie, etc., qui connaissait la loi par cœur, tatati, ça a super bien commencé. Et Jésus ne lui a pas dit, écoute, il a dit, écoute, il y a ça qu'il te faut faire. Il a mis le doigt sur le péché. Nous, on aurait dit au gars, mais c'est bien. C'est bien ce que tu fais. Non. Le Seigneur lui a dit, il te manque une chose. Et lui, il est reparti tout triste. Jésus n'a pas dit, reviens, on va arranger la sauce. Non. Mais vous savez, c'est comme ça que ça se passe dans les églises aujourd'hui. On essaye d'arranger les gens. Oh, papa, la repentance, c'est trop dur pour certains. Et certains, vous allez me dire, oh, encore, ils nous parlent de repentance. Eh bien oui, si ces temps de rafraîchissement ne viennent pas, il faudrait quand même peut-être qu'on se pose la bonne question. Jésus ne vous forcera pas. Jésus n'a jamais forcé quelqu'un. Il est mort. Hier, je réfléchissais à ce qu'il a fait. Il parle de la vie. Il parle de la mort. Il parle du ciel. Il parle de l'enfer. Il parle des ténèbres. Il parle de la lumière. Il parle du chemin large et spacieux. Il parle de la porte étroite. Il parle du blé. Il parle de l'ivraie. Chaque fois qu'il enseigne, d'accord? Il parle du bon berger. Il parle des mercenaires. Il parle de la maison bâtie sur le roc. Il parle de la maison bâtie sur le sable. Le sermon sur la montagne se termine avec cette affaire de maison sur le roc, de maison sur le sable. Il force personne. Pourtant, après un sermon comme le sermon sur la montagne, il aurait pu, moi je vous dis, il aurait pu... Il met des gens devant des choix. Il parle du Saint-Esprit, il parle des démons, etc. Jamais Jésus ne force quelqu'un. Mais nous, dans chaque épreuve, on devrait se poser la question. Parce que des épreuves, on en a tous, oui ou non? On en a tous des épreuves. Qu'est-ce qu'elles ont pour résultat, les épreuves? Dans 1 Pierre, j'aimerais qu'on le lise. Et on y reviendra certainement mardi soir, parce que c'est juste une petite introduction à la réunion de mardi, pour ainsi dire, 1 Pierre 1. Regardez cette affaire. Dans 1 Pierre 1, il y a un enseignement que je vous encourage à utiliser ces jours-ci dans vos cultes personnels pour que vous puissiez faire le point. Ça va vous aider. Il parle des épreuves. On a tous des épreuves. Tous, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Alors, il parle de ces épreuves, elles doivent avoir un résultat, les épreuves. Vos dernières épreuves, ça a été quoi? Ça a été dans la famille, ça a été dans le couple, ça a été avec les enfants, ça a été au travail, ça a été la santé, ça a été dans l'église. Je ne sais pas quelle a été la dernière épreuve. Mais regardez ce que Dieu dit. 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés, pour un peu de temps, oui, parce que ça va s'achever quand même, hein, quand on va être avec Dieu, par diverses épreuves, afin que l'épreuve, alors je saute 3 mots, volontairement, afin que l'épreuve plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat. Alors, dans la Bible, il est écrit que ce que Dieu veut, c'est que le résultat de l'épreuve, ça soit la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Mais je peux vous dire Et ça, je crois que le Seigneur vraiment me l'a montré hier matin, que pour certains, l'épreuve, ce n'est pas l'épreuve de la foi. C'est l'épreuve, point. Le résultat, ce n'est pas la louange. Le résultat, c'est l'apitoiement. Le résultat, c'est le doute. Le résultat, ce n'est pas la gloire ni l'honneur. Le résultat, ça peut être la rébellion. Est-ce qu'on peut se rebeller contre Dieu? Est-ce qu'on peut se rebeller contre Dieu? Mais Dieu vous laissera libre. Hein? Parlez-en, on a parlé de Samson. Pourtant, excusez-moi l'expression, mais un petit peu comme ça. Il me semble que moi, j'aurais mis la pression pour qu'il reste fidèle. Oui ou non? Est-ce que, non mais Samson, et Salomon. Qu'est-ce qu'il avait reçu de Dieu, Salomon? La sagesse. Personne comme lui a reçu la sagesse. Personne sur la terre. Il avait reçu la sagesse. Et qu'est-ce que vous le voyez faire? Vous le voyez construire des temples aux idoles. Oui ou non? Il a construit le temple, d'accord. Mais il n'a pas construit que le temple. Il a construit des temples aux idoles. Moi, je l'aurais empêché. Attention, vous avez compris ce que je voulais. Moi, je l'aurais empêché. Je lui dis, Salomon, même, tu rigoles. Avec la sagesse que tu as reçue, tu ne vas pas faire ça. Pourquoi et pour qui il l'a fait? Pour des femmes. Ça fait pitié, même. Mais Dieu l'a laissé faire. Moi, quand je vous dis moi, vous comprenez, vous avez compris ce que je voulais dire. C'est pour vous, pour nous faire comprendre que Dieu respecte nos choix, que Dieu ne force pas. Il ne force jamais. Nous, on dit aux gens, mais il faut faire ça, il faut venir aux réunions, il faut arrêter de faire ci, il faut arrêter de vous rebeller, il faut arrêter de murmurer, il faut arrêter de vous apitoyer. Mais moi, je ne le vois pas. Bien sûr que la Bible dit, ne murmurez pas, tout ça. Mais c'est dit sous la forme de conseil, pas sous la forme de reproche. Même quand Caïn est en train de mal réagir parce que monsieur n'est pas content, parce que Dieu n'a pas apprécié son sacrifice et qu'il est là en train de bouder à la porte, Dieu s'approche de lui et dit, mais Caïn, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu t'irrites? Fais-tu bien de t'irriter? On voit, en plus, voyez, est-ce que c'était bien que Dieu aille vers lui? Et oui, il lui dit, est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et il ajoute, le péché se couche à ta porte. Fais attention. La suite montre qu'il n'a pas du tout fait attention. Et vous savez ce que Caïn a fait? Il a tué son frère. Tu te dis, mais non, mais... Moi, si Dieu me parlait comme il a parlé à Caïn, alors c'est clair que c'est pas vrai. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Ils ont Moïse et les prophètes. Même si quelqu'un des morts venait, ils ne croiraient pas. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire ils ont Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, ça veut dire ils ont les prédicateurs. Même si on n'est pas au top, ça ne fait rien. On prêche la parole. Ils ont les prédicateurs et ils ont la parole. En tous les cas, si les prédicateurs ne vous conviennent pas, vous avez la parole. Qu'ils les écoutent. Si Jésus l'a dit, c'est que la parole et les prédicateurs inspirés, qui font de leur mieux en tous les cas, la parole, ça devrait nous suffire. Dieu nous laisse libres. Et ce matin, mes frères et sœurs, et je nous le dis, parce que je me mets avec vous quand même, nous sommes devant un choix. Bien sûr que vous avez choisi de venir à l'église. Vous avez choisi de venir louer le Seigneur. Vous avez choisi de dire, tiens, aujourd'hui, vous auriez pu aller au promener. C'est le week-end de Pâques, il y a plein de frères et sœurs qui sont partis. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons choisi de venir. On va prendre la Sainte-Seine. Moi, je dis que c'est une bénédiction, la Sainte-Seine. Mais c'est un choix aussi. C'est un choix que je fais de dire, je veux me rappeler ce que Jésus a fait. Je veux me rappeler ce qu'il a payé, parce que Pâques, on n'en parle pas aujourd'hui. Mais quand je me suis converti, j'ai entendu un pasteur qui disait, mais pour nous, Noël, c'est tous les jours. Pâques, c'est tous les jours. Et j'ai dit, tiens, mais ça, c'est bien. Et c'est vrai en plus. C'est pas vrai, franchement. Noël, c'est pas tous les jours pour nous. Franchement, la naissance de Jésus, la mort de Jésus, la résurrection, c'est pas tous les jours. Donc si on le fête pas le jour même, c'est pas très grave, on le fête tous les jours. C'est comme un homme qui aimerait sa femme que le jour de son anniversaire. Un jour, il y a un chrétien qui me dit, monsieur Roux, pour votre anniversaire, vous achetez des fleurs à votre femme? Ben, je dis, des fois, j'oublie, j'y pense pas, les fleurs, elles s'en fichent en plus. Ah bon, parce que moi, je suis en colère, mon mari m'a pas acheté des fleurs. J'ai dit, est-ce qu'il est gentil tous les jours de l'année? Ou à peu près? Bon, ben c'est bien. Non, mais c'est pourquoi je vous dis ça? Parce que il ne faut pas faire une fixation sur le jour. C'est tous les jours qu'il faut aimer le Seigneur. C'est tous les jours qu'il faut se remettre en question. Mais enfin, que chaque dimanche, on puisse prendre le pain et le vin, moi, je dis que c'est une bénédiction. Et Dieu attend une réaction. Prenons l'exemple d'Ésaïe 6. Vous connaissez Ésaïe 6? On y va. Dans Ésaïe au chapitre 6, il y a un homme qui est confronté à une grande épreuve. C'est une grande épreuve. Nous, on n'y fait pas attention parce que bon, ça ne nous concerne pas. Mais c'est une grande épreuve. La preuve, c'est écrit. C'était l'année de la mort du roi. C'était grave. Spirituellement, je ne prends pas le temps de vous l'expliquer. Politiquement, je ne vais pas vous l'expliquer. Mais je vous assure que c'était grave. Politiquement, Ésaïe chapitre 6, verset 1er. L'année de la mort du roi Ozias. Il est dans le deuil. On peut être dans le deuil. Est-ce qu'on peut être dans le deuil? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui nous font mal? Oui, il y a des choses qui nous font mal. Moi, vous savez, cette semaine, on a perdu une sœur en Christ, de Tahiti, qui pendant 3 ans nous a beaucoup bénis. Mais vous savez, ça m'a fait quelque chose. Vraiment, ça m'a fait quelque chose. Personne ne peut savoir le mal que ça nous a fait. Pourtant, ça fait 17 ans qu'on ne l'a pas vu, à part 2 fois, à part des voyages. Mais c'était comme une maman, vraiment. Parce qu'elle nous a bénis matériellement, parce que là-bas, on avait un petit salaire, on n'était pas Saint-Agne. Et le deuil, c'est quelque chose, c'est une épreuve, le deuil. L'année de la mort du roi Ozias. Mais il est à sa place. Et c'est ça. Il va être touché, cet homme. Mais il est à sa place. Il est dans le temple. On le voit. Les pans de la robe du Seigneur remplissaient le temple. Et vous voyez, vous connaissez cette affaire. Et au verset 5, dans la présence de Dieu, il va bien sûr exprimer ce qu'il est. Malheur à moi. Je suis perdu. Vous voyez, pourtant, c'est quelqu'un, Isaïe. Je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures. Il expose sa faille. Ce qui ne va pas, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. De suite, vous voyez cette prière, il ne demande pas quelque chose. Mais de suite, Dieu agit. L'un des séraphins vola vers moi, tenant à la pince une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche. Vous voyez, il est à sa place. Être à sa place, c'est pas, il faut être là à toutes les réunions. Être à sa place, ça veut dire, je ne supporterai rien qui m'éloigne de Dieu, que je sois ici ou ailleurs. Je ne supporterai rien, je veux être à ma place. Et Dieu, vous avez vu, Dieu a anticipé, il n'a même pas prié, mais il a vu sa prière. Il est là, il est conscient de ce qui ne va pas. Ce matin, il faut qu'on soit honnête. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que je sois honnête, vrai. Il fait pas du cinéma, Ésaïe. C'est quelqu'un. Lisez les 66 chapitres d'Ésaïe et vous allez voir tout ce qu'il va faire après les 5 premiers. Bon, il dit des choses de manière assez sévère, parce que c'est nécessaire. Il explique des choses sévères. Mais à partir du chapitre 6, jusqu'au chapitre 66, laissez-moi vous dire que cet homme, il a reçu. Mais parce qu'il a vécu quelque chose. Il avait besoin d'être touché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui dit, mais moi aussi, j'ai besoin d'être touché? Je veux ces temps de rafraîchissement. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas. À rechigner contre Dieu. Comme on le voit d'ailleurs déjà dans la tête, justement dans Ésaïe chapitre 5. Ils rechignaient. Vous savez ce qu'ils disaient? Et Dieu leur dit, je vous le lis, malheur à ceux qui disent qu'il accélère son œuvre, qu'il fasse ceci. Oui, on verra bien s'il est Dieu. Que Dieu accélère son œuvre. Malheur à ces gens-là. Vous aimeriez que Dieu accélère son œuvre? Que Dieu fasse certaines choses, et pourquoi il ne les fait pas, et pourquoi il n'agit pas, lisez le chapitre 5, et vous allez voir que ça va vous changer l'idée de parler comme ça. Quand on va passer devant Dieu, on va pas parler ainsi, toute bouche sera fermée. Mais bien sûr, dans la sainteté de Dieu, il n'y aura pas grand-chose à dire, parce qu'on aura tout compris de suite. Ésaïe, il veut être touché. Il est vrai. Il a besoin d'être touché. Il n'est pas en train de bouder. C'est le deuil. Il est dans l'épreuve. C'est peut-être le deuil. C'est peut-être autre chose. J'en sais rien parce qu'on est tous ébranlés par certains trucs. Mais il se voit comme il doit se voir. Et c'est là le cœur de ma réunion. Il se voit comme il doit se voir. Il voit sa vie comme Dieu la lui montre. Et c'est ça la présence de Dieu. Montre-moi ce matin où j'en suis. Et il va faire la prière qu'il doit faire. Vous connaissez là, ce qui caractérise l'église de la fin des temps, c'est l'église de l'Odyssée. Et Dieu dit à cette église, tu ne sais pas que tu es aveugle. Tu ne vois pas, tu crois que et tu ne sais pas. Mais Ésaïe, c'est un homme, il veut faire la volonté de Dieu. Il ne veut pas que Dieu lui fasse de lui un grand prophète. Il veut connaître le cœur de Dieu. Lisez ce livre. Les milliers de juifs qu'on appelle messianiques se sont presque tous convertis avec Ésaïe 53. Je ne sais pas si vous le savez. Dans le ciel, il y aura des milliers de juifs pendant la période de la grâce qui seront le résultat de la bénédiction qu'Ésaïe a reçue ce jour-là. Où il a dit, mais Seigneur, mes lèvres ont besoin d'être touchées. Mes lèvres sont impures. Pourtant, bon, quand il prêche, ça tient debout. Hein. Mais il reconnaît, il y a quelque chose qui a besoin d'être touché. Mes lèvres. Peut-être que ce sont vos mains. Est-ce que Jésus a déjà touché la main de quelqu'un pour le guérir dans la Bible? Est-ce que Jésus a touché la main de quelqu'un? Oui. Comment elle s'appelait? La belle-mère de Pierre, Jésus n'a pas touché la main? Est-ce que Jésus a touché la langue de quelqu'un? Est-ce que Jésus a touché la langue d'un muet? Oui, un précédentier. Pourquoi toucher la langue? Est-ce que Jésus a touché les yeux d'un aveugle? Est-ce que Jésus a touché un cercueil? Cercueil. Toucher un cercueil. Il a touché un cercueil. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux toucher mon cœur, Seigneur, ce matin? Parce que ces temps de rafraîchissement, je peux vous dire que le diable, il essaiera de vous faire croire qu'il n'existe pas. Mais ma responsabilité ce matin, c'est de vous dire que jusqu'à ce que Jésus revienne vous chercher, ces temps de rafraîchissement, ils existent. Il est mort sur la croix pour que des fleuves d'eau vive coulent. Et vous pouvez ce matin dire oui, mais moi aussi, et tout, parce qu'il n'a pas, pas eu honte, il n'a pas à avoir honte, bien sûr, on ne va pas faire du spectacle. Mais on peut là, dans cette demi-heure ou trois quarts d'heure qui nous sépare de notre fin de culte, dire, mais Seigneur, je vais prendre une décision. Si tu as touché la main de la belle-mère de Pierre, mais j'ai peut-être intérêt à ce que tu me touches la main. Parce que cette femme, elle était fiévreuse dans son lit, elle ne pouvait pas se lever, en plus il y avait les apôtres qui étaient là. Et c'est l'image des chrétiens qui ne peuvent plus rien faire. Ils sont couchés, ils sont capables de faire une heure de footing, une heure de piscine, je ne sais rien. Est-ce que c'est bien de faire une heure de jogging? Est-ce que c'est bien de s'occuper de son corps? Ben oui. Mais si vous êtes capable, ou si nous sommes capables de faire une heure de footing... et pas capable de servir Dieu, c'est qu'on est paralysé spirituellement. Si notre corps est plein d'énergie et qu'on prenne soin de son corps, mais vous avez raison. Mais mes frères et sœurs, si on n'est pas capable de servir Dieu, c'est qu'il y a une paralysie. Seigneur, touche ma main. Touche ma main, tu as vu la fièvre que j'ai. Ça va pas bien, ça chauffe. Des fois, ça chauffe là-haut. Oui ou non? Ça arrive comment, ça? Ça chauffe pas des fois? Ben ouais, on va pas, comme disent les jeunes, on va pas se la jouer. Il faut être vrai devant Dieu. Ésaïe a été vrai. Il n'a pas dit, mais tu sais, ça va très bien. Seigneur, touche mes lèvres. Et un ange, un séraphin, c'est la première fois qu'il en est parlé dans la Bible. Vous avez vu la réaction de suite. Mais on voit bien que Dieu, on le voit quand je dis que Dieu n'attend pas. On en a la preuve une fois de plus. Dieu, de suite, il va vers cet homme. Et avec une pierre ardente, ses lèvres sont touchées. Et croyez-moi que ça a marché. Seigneur, touche mes yeux. Je ne veux plus avoir peur du lendemain. Je veux te voir à toi, couronné de gloire et d'honneur. Je ne veux pas être comme ces païens. Il y a des chrétiens, moi je vous assure, ça fait mal au cœur. Mais vraiment, je vous le dis. Alors, je le dépose bien ou je le dépose mal, j'en sais rien. Mais, je ne sais pas, oui, je vais le dire comme ça. On prie pour le réveil. On prie pour le réveil. Moi, je pense qu'on devrait arrêter, honnêtement. Et on devait prier pour que dans l'église, il y ait des repentances. Ça vous choque un peu ce que je vous dis? Écoutez-moi, je le dis mal, je pense. Mais arrêtons, enfin, c'est pour moi qui, c'est pas un ordre, c'est un enseignement. Arrêtons de prier pour le réveil et repentons-nous. Reconvertissons-nous. Et laissez-moi vous dire que ça m'étonnerait que ça ne marche pas. Quand quelqu'un est honnête, Ésaïe a été honnête, Samson, ça a pris du temps, il nous a dit que dans la prison, les cheveux recommençaient à pousser, c'est l'image de... sa reconsécration qui revenait, vous savez comment il a terminé, il est même dans la liste des héros de la foi. Ça veut dire que quand on se repent en Dieu, vous croyez que quand il va passer devant Dieu, Samson, il va avoir toute une litanie de choses? Non, quand on se repent, on se repent. Et on a besoin, la repentance, c'est pas que le, il faut pas voir que le côté négatif. Il n'y a pas de côté négatif dans la repentance. La repentance, c'est une bénédiction. Et ça, le diable, il essaie de nous faire voir un côté négatif. Parce que la repentance amène la bénédiction. La repentance amène le pardon. La repentance amène la grâce, la joie. C'est pour ça que le diable, il ne veut pas qu'on se repente. Et il veut nous faire croire qu'on l'a fait une fois pour toutes, le jour de notre baptême. On a pris le baptême, on s'est engagé. Oui, 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 c'est très, 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 très bien. Mais ça ne suffit pas. Je veux ces temps de rafraîchissement. Je veux être touché, peut-être entièrement touché, comme ce lépreux. Là aussi, Jésus a touché un cercueil, mais il a fait pire. Mieux, il a touché un lépreux, couvert de la tête aux pieds. Et ce lépreux, il a été complètement guéri. Je ne sais pas où on en est, vous et moi. Mais mes frères et sœurs, est-ce que quelqu'un peut penser que si Dieu, si une personne, vraiment de tout son cœur, obéit, ben je vais me repentir. Je vais repartir à zéro, comme au début. On se rappelle, vous rappelez, si vous vous êtes déjà converti, repenti, vous savez comment vous vous êtes converti. Vous savez quand vous êtes né de nouveau, vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous en souvenez le jour où vous êtes né de nouveau? Il y a des gens, ils ne savent pas, bien sûr, ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que si vous êtes né de nouveau, vous le savez. Oui ou non? Quand vous passez des ténèbres à la lumière, laissez-moi vous dire que vous vous en souvenez. Oui ou non? Si vous ne vous souvenez pas du jour où vous êtes né de nouveau, c'est qu'il y a un gros problème dans votre nouvelle naissance. Alors là, ce n'est pas reconvertissez-vous, c'est convertissez-vous. Mais Dieu va répondre à la prière de Salomon. De Salomon. Puisque tous les théologiens pensent que le Cantique des Cantiques, ce merveilleux cantique, est le dernier enseignement que Salomon a reçu de la part de Dieu, dont cet homme, il s'est vraiment repenti. Samson, il s'est vraiment repenti. Il l'a payé cher. Ma fille préférait mourir. Et je pense qu'il avait raison. Plutôt que de se dire, c'est pas la peine de recommencer. C'est pour ça que Dieu sait quand est-ce qu'il doit reprendre quelqu'un parfois et que le nom du Seigneur soit béni. Dieu sait s'il doit me reprendre dans 15 jours ou dans 3 semaines ou dans 1 an. C'est pas grave ça. Ésaïe, vous trouvez que c'est bien qu'il dise Seigneur, touche mes lèvres. Est-ce que vous pensez que c'était bien? Quelle est votre prière? Alors ça ne regarde pas, ne vous levez pas en disant, bon, il faut que Dieu touche ce point-là, je suis un menteur. Eh bien, arrêtez de mentir. Parce que les menteurs, tous les menteurs, écoutez, vous croyez ce que je dis, n'hériteront pas le royaume des cieux. Tous ceux qui pratiquent le mensonge. Et si vous jouez avec ce jeu-là, ne dites, vous ne pourrez pas dire un jour, ah ouais, mais je croyais que ce n'était pas grave le mensonge comparé à la pornographie. Moi, j'avais mis des curseurs là, sur certains péchés. Écoutez-moi, le Seigneur, il sait où j'en suis. Le Seigneur, il sait. Lui, il sait. Josias, il a entendu. Il n'a pas dit, c'est une femme qui prophétise. Une femme? Comment ça, c'est une femme? Il a été sérieux. Vous savez, il faut être sérieux avec la parole. Que ce soit un secrétaire, c'est le secrétaire qui lui a lu la loi. C'est une prophétesse qui lui a dit, la colère vient. Elle vient, la colère. Personne n'échappera. Sauf ceux qui sont couverts par le sang de Jésus. Est-ce que vous êtes couverts par le sang de Jésus? Les jeunes, vous savez, je pensais à vous hier, je pensais à vous, à nos enfants, qui ont 16 ans, 18 ans, comme le roi Josias. Vous qui avez 18 ans, 15 ans, 20 ans, je ne sais pas. Est-ce que vous avez pris ces choses au sérieux? Je ne vous apprends rien. Si vous venez pour la première fois, oui, peut-être. Ne pensez pas que ça va être comme à Hollywood, où ça finit toujours bien dans les films. Ça ne va pas finir bien. Ça finira bien pour les chrétiens, mais ça ne va pas finir bien pour les païens. Alors j'aimerais, moi, qu'on se recueille. Tu peux choisir des frères? J'aimerais qu'on se recueille. Est-ce que l'on pourrait dire, mais Seigneur, moi, c'est mes mains, le service, mes pieds. Vous rappelez cet homme que Jésus a guéri parmi cette multitude de paralytiques qui étaient malades depuis 38 ans. Et Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Cet homme va l'être. Quelques jours après, Jésus le rencontre dans le temple.
Et Jésus va lui dire une parole terrible. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, dans ce cas, la paralysie de cet homme était due au péché. Ce n'est pas tous les cas pareil, attention. Mais être quelque chose de pire que 38 ans, c'est l'enfer. Nos ados, nos jeunes, vous qui n'allez pas prendre le pain et le vin parce que vous n'êtes pas encore passé par la repentance ou par la conversion, repentez-vous. La colère vient et personne n'échappera si ce n'est ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ et qui marchent dans la sainteté. Mes frères et sœurs, dont je fais partie, nous qui avons donné notre cœur à Jésus, qui sommes passés par la repentance, par la conversion, par la nouvelle naissance, par le baptême, Dieu nous propose ce matin des temps de rafraîchissement. Qui les veut? Je vous promets, Dieu forcera personne. Il faut que je me repente. Il faut que je me re-repente. Il faut que je me re-reconvertisse. Car les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Alors frères et sœurs, vous qui êtes baptisés, vous qui êtes au Seigneur, vraiment, joyeusement, levez-vous à votre place, s'il vous plaît.